Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Adrien Quatennens, député et coordinateur de la France Insoumise. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Bienvenue dans ce grand jury, votre premier grand jury. Et à mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre, député LCI.
Bonjour.
Bonjour Adrien. En fin de première partie, question nette, réagissez en direct sur les réseaux sociaux, vous y êtes habitués, hashtag le grand jury. Et puis à une semaine des élections, il y a une seconde partie spéciale municipale, puisque Adrien Quatennens, vous débattrez face à Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à l'écologie. Alors Adrien Quatennens, vous n'avez pas encore 30 ans et vous êtes l'une des voix de la France Insoumise et depuis juin dernier son coordinateur. Fils prodige ou celui même spirituel, dit-on, de Jean-Luc Mélenchon, certains le disent dans votre parti. La France Insoumise, qui a bataillé ferme contre la réforme des retraites, le ferez-vous à nouveau en seconde lecture? Nous en parlerons, bien sûr. Et on parlera aussi des municipales. Peu de listes sous votre propre bannière. Pourquoi? Ce sera aussi l'un des thèmes de cette première partie. Mais tout d'abord, l'actualité. Et nous parlons coronavirus avec une première question de Guillaume Roquette.
Oui, un certain nombre d'acteurs de santé, y compris des médecins d'ailleurs, trouvent que les pouvoirs publics en font trop au nom du principe de précaution dans le traitement de cette crise. Quel est votre avis ?
Écoutez, je pense qu'il faut traiter la chose avec sérieux. On fait face à une épidémie. Ne pas céder à la panique me semble important et convoquer la raison. En toute hypothèse, nous avons effectivement une épidémie qui... sur la totalité des Français qu'elle va toucher, pour 80% d'entre eux, va aller de personnes qui ne ressentiront aucun symptôme jusqu'à une grosse grippe. Mais c'est vrai, 15% de cas qui sont potentiellement sérieux, voire graves, et 2% de mortalité. Donc il faut effectivement traiter ça avec raison. Il y a donc des précautions d'usage à prendre. Moi-même, vous savez que l'Assemblée nationale a fait l'objet de plusieurs cas, donc nous sommes tenus à des précautions. Mais
Que ça a changé quelque chose pour vous depuis qu'on sait qu'il y a des cas qui ont été détectés à l'Assemblée ?
Bah écoutez, en tout cas, il y a des consignes qui ont été passées, il faut pouvoir les respecter. Nous avons effectivement reçu des consignes du président de l'Assemblée nationale et nous y sommes astreints depuis jeudi soir.
De quel ordre ?
Écoutez, c'est des consignes de précaution finalement, somme toute assez banales. Se laver les mains, éviter les contacts trop rapprochés.
Même prendre sa température de
voilà,
quoi par
effectivement,
jour.
Voilà, effectivement, bon, moi j'ai effectivement renoué avec le thermomètre. Bon, je ne fais jamais guère que 49,3 de température, tout va bien. Non, trêve de plaisanterie, il faut dire une chose, c'est qu'on peut par contre craindre une conjugaison de plusieurs crises qui pourraient effectivement aggraver la situation. À la fois la crise du coronavirus, mais également la grippe saisonnière et bien évidemment la situation de l'hôpital public en même temps.
Est-ce que vous faites confiance au pouvoir public, au gouvernement en particulier,
écoutez,
pour gérer cette crise ?
Jeudi, il y a 10 jours, je me suis rendu avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon, rencontrer le Premier ministre qui avait invité les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires et nous avons dit notre disponibilité pour aider en cas de besoin sur la situation. Maintenant, vous dire une chose aussi, c'est que s'il faut effectivement suivre précisément les consignes, on voit bien que cette crise du coronavirus, elle vient interroger jusqu'à nos modes d'organisation. On voit l'interdépendance absolue qu'il y a, les effets de la mondialisation, notamment s'agissant de la Chine. Et puis, surtout, c'est
donc
le marché qui est interrogé.
Je vais s'arrêter sur ce point que vous mentionnez, Adrien Quatennens. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir des médicaments qui sont produits en Chine et tout produit
alors,
en France ?
Alors, j'y viens. Ça veut dire d'abord que dans un épisode comme celui-ci, on voit l'importance de l'État et de règles. Et on voit la défaillance complète du marché dans l'affaire, qui est tout juste capable à quoi ? S'affoler sur les cours de bourse et multiplier le prix du gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Voilà de quoi est capable le marché. Et donc, on redécouvre la vertu de l'État et de la régulation. J'ai vu que le ministre de l'économie avait encadré par décret le
vous
prix du gel hydroalcoolique.
Vous trouvez que c'est une bonne décision ?
Mais évidemment, mais du coup, je m'interroge, puisque comme il y a une crise, ils sont prêts à faire des décrets pour pouvoir encadrer les prix. Pourquoi ne pas non plus encadrer les prix des produits de première nécessité, aller plus avant sur l'encadrement des loyers ? Bref, on redécouvre la nécessité d'un État et d'un État qui régule dans un contexte où le marché, lui, est strictement incapable de pallier à ce type de crise.
Est-ce que vous estimez, pour être clair, que le gouvernement est à la hauteur de la crise et Emmanuel Macron l'est également ?
Écoutez, pour l'instant, je me garderai bien de toute polémique. Je vois que les Français parfois s'interrogent. C'est vrai que quand on a des événements à 5000 personnes qui sont interdits mais qu'à 4008, ça passe. Quand on voit que certains marchés en plein air sont interdits alors que l'hypermarché qui se trouve juste à côté, qui en toute hypothèse brasse plus de clients et dans un espace confiné lui est autorisé, tout ça peut poser question. Néanmoins, oui, à ce stade, j'en appelle simplement à faire confiance, effectivement, et à respecter strictement les consignes. Parmi les choses que nous avons dites au Premier ministre, il y a effectivement aussi, et je veux depuis votre micro ce matin, saluer le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public, parce que vous savez que la crise à l'hôpital, elle n'a pas attendu le coronavirus. On avait déjà véritablement des problèmes de moyens dans l'hôpital public. Je vous demande de noter, par exemple, que le plan santé de Mme Buzyn, devenue depuis candidate à la mairie de Paris sur l'hôpital, c'est 1,5 milliard pour l'ensemble des hôpitaux et sur 3 ans. Voyez-vous, 1,5 milliard, juste à titre de référence, c'est le budget du seul CHU de Lille pour une seule année.
Mais voyez,
donc c'est clairement insuffisant.
L'hôpital n'a pas les moyens aujourd'hui de faire face à la crise du coronavirus.
Effectivement, je crois qu'il faut que le Premier ministre et le gouvernement mettent des moyens supplémentaires, humains et financiers, pour y faire face. Parce que, je le disais, avant même le coronavirus, la situation était déjà critique. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau plan d'économie en 2020. C'est la demande minimale du personnel et du collectif.
Mais quelle rallonge budgétaire demandez-vous ?
Écoutez, il faudrait effectivement, à minima, qu'on puisse considérer que sur le prochain PLFSS, il n'y ait plus d'économie. Parce que, systématiquement, c'est à chaque fois des mesures d'économie supplémentaires qui sont demandées à l'hôpital public. Et surtout, je veux dire une chose, vous m'interrogez sur les médicaments. Mm-hmm. Nous avons effectivement reformulé au Premier ministre une proposition que nous avions déjà faite, qui est celle d'un pôle public du médicament en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a 30 ans, voyez-vous, 80% des médicaments étaient produits sur le sol européen, une grande partie d'ailleurs en France. Et aujourd'hui, nous sommes dépendants de la Chine à près de 90% pour l'essentiel des molécules. Je parle pas là des traitements pour le coronavirus, d'ailleurs à cette heure il n'en existe pas, mais pour l'ensemble des molécules et des matières premières pour fabriquer les médicaments, pour toutes sortes de traitements.
Vous dites comme Marine Le Pen, pour relocaliser en France.
Pardon ?
Vous dites comme Marine Le Pen, il faut relocaliser en France.
Je ne sais pas si je dis comme Marine Le Pen ou si c'est Marine Le Pen qui dit comme moi. Et puis je me garderai bien de ce genre de comparaison parce que, vous savez, il y a toujours cette petite logique politicienne qui vise à faire en sorte que dès qu'on raconte quelque chose qui est similaire, dès qu'il y a les mêmes mots dans notre bouche, on voudrait y voir quelques proximités politiques. On y viendra sans doute après sur d'autres sujets. Ça n'est absolument pas le cas. Non, je ne crois pas que Marine Le Pen dise depuis aussi longtemps que la France insoumise qu'il nous faut un pôle public du médicament qui permettrait... Le logiciel politique du Rassemblement National n'a strictement rien à voir avec celui de la France insoumise. Nous nous en appelons...
Vous avez du libéralisme ou du libre-échange ?
Non, mais bon, en toute hypothèse, puisqu'on parle du coronavirus et de la manière de le traiter, excusez-moi de ne pas vouloir tomber dans la petite logique qui vise à tomber très vite dans la cour d'école politicienne pour savoir si nous racontons la même chose que Rassemblement National. Vous dire une chose très clairement. Nous voulons effectivement instaurer un pôle public du médicament qui permettrait, c'est vrai...
Ce serait si terrible d'être d'accord avec...
Non, attendez, on parle du coronavirus, c'est sérieux. Je reviens après, si vous voulez, on parlera pendant une heure, si vous voulez, de Marine Le Pen après. Dire une chose, nous voulons effectivement instaurer un pôle public du médicament qui permettrait de relocaliser la production d'un certain nombre d'entre eux et qui permettrait d'assurer en quelque sorte une forme de souveraineté sanitaire que nous avons perdue de fait. Oui, c'est vrai.
Vous opposiez le rôle de l'État à celui du marché, mais est-ce que vous êtes favorable aux mesures d'aide aux entreprises, report de charges, report d'impôts pour les entreprises qui sont en difficulté du fait de cette crise ?
Incontestablement, il y a des difficultés à pouvoir prendre en charge et l'État doit être à la hauteur, y compris s'il s'agit de faire en sorte que des entreprises aient les moyens de faire face à la crise. Effectivement, je crois que c'est bien à l'État de réguler cette situation par des mesures telles qu'il faut les prendre. Et pour le moment, effectivement, on s'en tient aux consignes qui sont passées.
Vous craignez que ça ait également un effet sur la participation municipale, que des Français ne se déplacent
pas ? Je ne sais pas. Moi, j'appelle à ne pas céder à la panique. J'ai vu qu'il y avait des consignes passées pour faire en sorte que, par exemple, dans les bureaux de vote, il y ait effectivement le gel hydroalcoolique et tout le reste. Moi, je pense que si chacun s'en tient à quelques précautions d'usage, somme toute de bon sens, il n'y aura pas de difficulté. Voilà, le tout, c'est effectivement de se garder, de contact rapproché, de serrer les mains, mais surtout, ne renonçons pas à notre droit de vote à cette occasion.
Vous ne craignez pas qu'une abstention plus forte n'entache la crédibilité de cette élection et des résultats ?
Je ne le sais pas, j'espère en tout cas, et puisque je suis en position de pouvoir adresser un message à celles et ceux qui nous écoutent, je leur dis, moyennant quelques précautions d'usage, ne renoncez pas à votre droit de vote la semaine prochaine.
À l'issue des vacances parlementaires, vous souhaitez que les débats et les travaux puissent reprendre à l'Assemblée, comme s'il n'y avait pas de coronavirus, ni de cas
On verra bien. À 7h, les débats sont programmés pour la reprise aux alentours du 23 mars. Maintenant, on verra effectivement où en sera la situation à ce moment-là.
L'une de vos collègues, Claire Petit, s'est mise en quarantaine.
Est-ce que
vous vous y avez pensé ?
Non, pour le moment, écoutez, moi je respecte assez strictement les consignes qui nous ont été passées. Pour le moment, s'agissant des députés et de leurs collaborateurs, elles s'en tiennent effectivement à dire « ne modifiez pas votre agenda ». Par contre, dans le respect de votre agenda, prenez ces quelques précautions, évitez les contacts physiques rapprochés, lavez-vous les mains, prenez votre température, tout ça. Bon, tant qu'il n'y a pas d'apparition de symptômes, il n'y a pas de raison de se confiner.
Dernière question avant de passer au sujet des retraites. Vous parliez d'un pôle donc, du médicament. Est-ce que vous iriez jusqu'à demander une nationalisation de certaines industries pharmaceutiques ?
Pourquoi pas ? Écoutez, une chose est sûre en
Pourquoi
tout cas.
Pas ?
Dans une situation comme celle-ci, je pense qu'il est important de dire une chose. Nous ne pouvons être soumis ni aux aléas économiques et sanitaires d'un pays dont nous sommes de fait dépendants, la Chine, ni au chantage de certains laboratoires pharmaceutiques qui ont d'ailleurs, dans des commissions d'enquête devant le Sénat, assumé clairement l'idée que dans des cas de tension sur le marché, ben, ils allaient jouer sur les prix. Voilà, ça n'est pas possible.
Qu'est-ce que vous craignez pour le coronavirus ?
Bah, écoutez, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais
les
en tout
prix,
cas,
on peut
je
les bloquer,
bien,
comme pour les gels hydroalcooliques.
Non, mais il suffit effectivement de voir ce qui s'est produit pour le gel hydroalcoolique, c'est-à-dire l'effet d'augmentation sur les prix qui montre bien que le marché dans cette affaire est davantage soucieux toujours de ses propres affaires que de l'intérêt général. Or, pour nous, c'est clair, c'est l'intérêt général qui doit soumettre des intérêts particuliers. Donc s'il fallait en aller jusqu'à une logique de nationalisation, vous savez, pour moi, la nationalisation, ce n'est pas une généralité, mais ce n'est pas un gros mot non plus, vous l'aurez compris.
D'accord, donc de certains laboratoires français pharmaceutiques. On passe au second sujet de la semaine, les retraites et le passage au 49-3 pour faire adopter cette réforme, Adrien Gindre.
Le texte va passer au Sénat, mais il reviendra à l'Assemblée, c'est la procédure. Est-ce que vous aurez la même attitude à cette occasion que vous l'avez en première lecture ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura à nouveau des milliers d'amendements qui seront déposés par la France insoumise ?
Sans doute il y aura la même méthode et je vais la résumer dans mes propres termes, si vous me le permettez. Je rappelle qu'on est en présence d'un texte, une réforme des retraites, qui est toujours à cette heure refusée par une stricte majorité de Français. J'ai vu que d'ailleurs plus de 70% d'entre eux étaient opposés à l'usage du 49-3 qu'avait fait ce gouvernement. Un usage, on y reviendra, détourné et abusif, puisque le 49-3 normalement ne sert pas à museler l'opposition et à mettre fin à des débats, mais à faire en sorte qu'un exécutif qui craindrait que sa majorité ne vote pas le texte, eh bien, puisse se passer d'un vote. D'ailleurs, on peut interroger au passage le fait que peut-être l'exécutif a craint dans cette affaire un vote qui aurait donné à voir la dislocation en cours du groupe majoritaire. Parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous tenez la comptabilité, moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais depuis le début de l'année, il y a eu un nombre de démissions de parlementaires de La République En Marche, de ce groupe et du parti, qui sont considérables.
Il y a toujours une très large majorité,
juste résumé,
vous savez, avec le MoDem,
donc,
Adrien Quatennens.
Résumer les choses, du coup, Adrien Gindre. Ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est finalement tout simplement le rôle qui nous a été attribué d'opposant et de proposant. Et il faut supporter, effectivement, que dans une Assemblée, il y ait une opposition.
Mais
je note bien que à l'Assemblée nationale, nous sommes l'opposition et en minorité du point de vue numérique. Mais j'ai pas oublié non plus que dans le pays, sur cette affaire des retraites, nous représentons un mot d'ordre qui est toujours, à l'heure où nous nous parlons, majoritaire. Juste vous dire une chose sur la méthode qui a été celle de la France insoumise à l'Assemblée. Parce que moi, je suis obligé de rire après tout ça. On a parlé d'obstruction parlementaire.
Que vous aviez revendiqué.
Alors, mais disons une chose. Avec 41 000 amendements de tout groupe confondu, et qui plus est, avec une multiplication d'amendements pour ce qui est de notre cas, c'est-à-dire une duplication du même amendement en autant que de parlementaires. Ça ne permet pas de les défendre 17 fois, hein. Ça permet de prendre la parole qu'une seule fois, mais de s'assurer, qui que ce soit, qui soit sur nos bancs à toute heure du jour ou de la nuit, que l'amendement puisse être défendu. Très franchement, vous êtes des observateurs aguerris de la vie politique. S'il s'était agi de faire de l'obstruction parlementaire, vous pourriez vous moquer de nous et nous dire que nous n'avons pas été à la hauteur. Car les grandes heures de l'obstruction parlementaire à l'Assemblée nationale, ça a été par exemple quand Madame Boutin montait à la tribune de l'Assemblée pour lire la Bible, ou quand il y a eu sur GDF 137 000 amendements, quand on a privatisé TF1, il y a eu deux mois
vous
plein et entier.
Vous avez été des petits bras ou petits bras ou
je
petits joueurs.
Je veux dire simplement que la méthode a été celle d'une multiplication d'amendements, mais qu'elle a servi à animer le débat de fond. Contrairement à ce qu'a affirmé avec un mensonge éhonté Édouard Philippe, le débat de fond a eu lieu et il a beaucoup eu lieu. Attends, grâce aux insoumis
question
à l'Assemblée nationale.
Attendez,
juste une chose, vous dire que par exemple, quand il a été dit que nous avons débattu pour savoir si on remplaçait un mot par un autre, c'est faux. Nous avons eu des amendements de forme qui, effectivement, remplacent un mot par un autre.
On avance.
Mais nous avons, pour l'essentiel, débattu du fond. Et sans doute, c'est pour cela que le débat a été interrompu à un moment essentiel.
Sur le fond, on a compris que si la France insoumise arrivait au pouvoir, elle rétablirait la retraite à 60 ans, à taux plein avec 40 annuités. Est-ce que vous avez chiffré le coût d'une telle mesure ?
Bien sûr. D'abord, résumer la logique de M. Macron et la nôtre, pour que chacun la comprenne bien. Jusqu'à présent, en France, malgré toutes les réformes des retraites qui ont largement atteint notre système de retraite, À mesure que la part des seniors augmentait dans la population française, on augmentait à peu près proportionnellement, et on peut le vérifier statistiquement, la part de la richesse nationale consacrée aux retraites. Emmanuel Macron se situe en rupture avec ce mouvement historique, puisque son projet de loi a pour effet de faire baisser la part de la richesse nationale consacrée aux retraites. Et Emmanuel Macron voulant l'équilibre financier...
Autour de 14%
du PIB. Elle va baisser en dessous des 13%. Le Conseil d'État, qui n'est pas d'ailleurs un nid d'insoumis, s'est chargé de le vérifier. Mais en l'occurrence, dire... La part des richesses consacrées aux retraites va baisser, mais nous voulons l'équilibre financier. Ça veut dire que la seule variable d'ajustement, c'est le niveau des pensions des Français. Et d'ailleurs, quand vous retirez tous les éléments de langage, tous plus fumeux les uns que les autres...
Ou le report de l'âge.
Mais c'est la même chose, cher ami, parce qu'en réalité, regardez, si vous dites on baisse le niveau des pensions, ce qui est a priori inacceptable pour un responsable politique, ou vous devez travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau des pensions, ben, en fait, c'est deux manières de dire la même chose. Parce que si au même âge, pour atteindre le même niveau de pension, il faut travailler plus longtemps, c'est bien qu'à ce même âge,
vous n'avez pas répondu à la question de Guillaume Roquet. Combien coûterait votre projet ?
Vous avez raison. Moi, nous avons présenté depuis le mois de décembre un contre-projet de la France Insoumise. Puisque je l'ai dit, nous ne sommes pas une opposition principielle. Nous faisons beaucoup de propositions. Et d'ailleurs, ce document, je l'ai remis en main propre du Premier ministre Édouard Philippe, car il répond
donc
à
son... Donc un document intitulé « Retraite contre-projet », je le dis pour nos auditeurs, de l'avenir en commun.
Merci
donc,
pour voilà. Cette page de publicité.
Bah, je lui ai remis... Nous avons des auditeurs.
Je lui ai remis en main propre pour la raison qu'il avait dit, sur votre antenne d'ailleurs, c'était sur RTL, je le crois, je suis ouvert, disait-il, à toutes les propositions qui permettent le retour à l'équilibre financier. Eh bien, voici des propositions qui permettent le retour à l'équilibre financier. Alors, très simplement, contrairement à Emmanuel Macron, qui veut faire de la vie des gens et du niveau de vos pensions la variable d'ajustement de l'équilibre financier, notre règle d'or à nous serait, dans un contexte où l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans, où les gains de productivité ont augmenté, un actif aujourd'hui produit trois fois ce que produisait un actif dans les années 70. Un salarié français travaille aujourd'hui en moyenne 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires, c'était 9 dans les années 80. Donc notre logique à nous, c'est de dire, les Français, et d'ailleurs je demande à ce qu'ils m'entendent, tenez tête à ce gouvernement parce que vous produisez déjà assez
de
richesses.
Un chiffre, on est à 14%, vous montreriez à combien?
2 points de PIB, 2 points de PIB de plus d'ici à 2040.
À peu près 45 milliards.
2 points de PIB de plus d'ici à 2040 et je considère, et je vous le dis très fermement, ce n'est strictement rien, j'en termine, si on considère la part de richesse qui est passée des poches du travail aux poches du capital depuis ces
donc
dernières années.
Parce
que voyez-vous, si vous mettez de la tôle dans un hangar et que vous revenez trois mois plus tard sans qu'il y ait eu de travail humain, vous n'y trouverez pas des bagnoles. Seul le travail humain produit et par conséquent, le débat fondamental sur les retraites est bien celui de la répartition des richesses
justement,
et on pourrait le faire.
Une question d'argent encore, Adrien Quatennens. Il y a une conférence de financement qui se réunit. Alors la CGT, Force ouvrière ont pris leur distance. La CFDT, à ce stade en tout cas, a toujours prévu de continuer à participer aux travaux. Est-ce que vous considérez que la CFDT l'a trahi, les Français? Vous dites qu'il y a une très large majorité d'opposition à cette réforme. C'est un syndicat qui représente les salariés. Est-ce qu'il est dans son rôle en participant à cette conférence de financement ou pas ?
D'abord, vous dire une chose, la conférence de financement n'a strictement rien à voir avec le projet de loi. Peut-être que vous l'apprenez, mais en quelque sorte, la conférence de financement, c'est une salle dans laquelle Édouard Philippe a décidé d'enfermer les partenaires sociaux, comme on les appelle, les syndicats, pour leur dire « trouvez-nous 12 milliards d'économies avant l'instauration de notre projet ».
Et vous ne croyez pas à cette
social ? Non, moi je dis d'abord une chose, c'est que trouver des économies, ça voudrait donc dire qu'il y a un déficit. Effectivement, le Conseil d'orientation des retraites nous parle d'un déficit potentiel d'ici à 2025 de 8 à 17 milliards, mais j'interroge la provenance de ce déficit.
Donc la CFDT fait le jeu du gouvernement.
La CFDT, moi je ne suis pas responsable syndical, ça ne vous aura pas échappé, laisse effectivement aux travailleurs le choix de décider de leur appartenance syndicale. En toute hypothèse, en tout cas, je dis, quand on vous demande de regarder vos chaussures ou de vous serrer la ceinture parce qu'il y aura un déficit, interrogez toujours la provenance de ce déficit.
Alors,
car si déficit il devait y avoir, il est d'abord une construction politique sciemment organisée, notamment par le gouvernement, en exonération de charges, etc. Comme aujourd'hui, juste, nous sommes le 8 mars, c'est la journée la journée internationale du droit des femmes. S'agissant des retraites, dire une chose, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, par exemple, c'est vrai que dans ce pays, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes à travail égal, que leurs pensions de retraite sont inférieures de 18% à celles des hommes en moyenne. Eh bien, si nous faisions véritablement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, compte tenu des cotisations en plus dans les caisses qui en résulteraient, autour de 5 milliards, nous pourrions financer pour le court terme la retraite à 60 ans. Et de la même manière, les femmes ont prétendument été présentées comme les grandes gagnantes de ce projet. Si elles manifesteront tout à l'heure, c'est notamment parce qu'elles ont compris, comme elles subissent le plus le travail précaire et notamment effectivement les carrières hachées, que s'agissant du calcul qui va passer sur toute la durée de la carrière, elles seront effectivement les grandes perdantes de ce projet de loi.
Les associations féministes qui protestent contre des violences policières hier soir lors de la manifestation parisienne.
Oui, le droit de manifester est de plus en plus remis en cause dans ce pays.
Ça a les été forces le cas... de l'ordre disant qu'ils réagissaient à des violences de la part des manifestants.
Oui, mais c'est toujours pareil. Quand vous avez des manifestants pacifiques qui se retrouvent empêchés de manifester, on n'est plus dans le maintien de l'ordre. Et si on parle de maintien de l'ordre, moi j'interroge quel ordre s'agit-il de maintenir ? Parce que c'est plutôt le désordre social qui a cours dans ce pays. Moi, vous savez, avec mes amis de la France Insoumise, nous sommes attachés aux formes pacifiques de mobilisation pour la raison que nous savons que la condition d'une réussite, d'un rapport de force favorable, c'est le nombre. Et que la condition pour obtenir le nombre, c'est que les manifestants se passe tranquillement. Mais vous êtes obligé, comme moi, de constater aujourd'hui que des gens qui n'ont aucune intention de troubler l'ordre public se trouvent dissuadés ou hésitent à manifester de peur, effectivement,
de la police. Donc vous dénoncez une forme de provocation de la part de...
Écoutez, je dénonce des méthodes, parce qu'il y a des endroits dans le pays où ça se passe bien, et
d'autres du ministre,
ça se passe particulièrement
préfet,
mal. Mais écoutez, incontestablement, le préfet l'Allemand a des responsabilités, puisqu'on voit bien que c'est particulièrement en Île-de-France que ça se passe mal. Mais oui, effectivement, il faut dire aux fonctionnaires de police que ce sont les donneurs d'ordre que nous mettons en cause. Parce que voyez-vous, il y a un syndicat de policiers, une fois, qui s'est senti autorisé à prendre en grippe la France Insoumise, à venir jusqu'à manifester sur nos fenêtres et à dire « la France Insoumise est anti-flic ». Chers amis, la France Insoumise est tellement anti-flic qu'elle veut recruter 15 000 policiers de plus, qu'elle a été la première à l'Assemblée nationale, par la voix du gouvernaliciste d'Alexis Corbière, à demander que les commissariats soient remis en état et que soient payés les millions d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Il faut d'urgence appeler à la désescalade.
Mais ça veut dire que vous appelez
la
démission du préfet de police
J'appelle
de
depuis longtemps avec mes amis à la démission de M. Castaner, qui effectivement, si on considère le nombre de blessés et la manière dont les manifestations se passent dans notre pays, effectivement, alors, eh bien, paye un lourd tribut là-dessus.
Dans ce cadre-là, on en arrive au municipal. Est-ce que, au vu de ce que vous venez de nous dire, vous souhaitez un vote sanction dans les urnes ? C'est cela que vous dites aujourd'hui ?
Écoutez, moi, je ne vais pas résumer l'élection municipale à un vote sanction, mais si nous avons l'occasion de faire d'une pierre deux coups, pourquoi s'en priver ? Effectivement, il faut que partout se sache dans le pays que les candidats LREM sont les candidats la retraite en moins et qu'il se pourrait bien, si les Français et les Français décident d'utiliser, eux, leur 15-3, c'est-à-dire leur 15 mars, après que le gouvernement a utilisé son 49-3, eh bien que nous puissions, dès dimanche prochain, imposer une motion de censure citoyenne, et je considère effectivement qu'elle serait salutaire.
Mais en votant pour qui, puisque vous n'êtes pas partout...
Oui, votre mouvement présente peu de candidats aux prochaines municipales.
Alors, eh bien écoutez, vous y êtes pas et vous nous aurez mal compris, alors je m'en vais vous résumer la situation. Nous avons fait le choix...
Vous n'allez pas à Lille.
Par exemple, je ne vais pas à Lille, mais vous allez voir que bien d'autres que moi y vont et que c'est très heureux. Vous dire une chose, d'abord, l'été dernier, le mouvement La France Insoumise a décidé effectivement de sa feuille de route pour les élections municipales en partant d'un principe. Ça fait depuis 2016, depuis que nous sommes nés en réalité, que nous théorisons la nécessité de l'implication citoyenne directe pour régler les problèmes. Par conséquent, il n'y aura pas de liste de la France Insoumise en tant que telle aux élections municipales, mais une multitude de listes soutenues par la France Insoumise. Au total, pour vous donner quelques éléments chiffrés, nous sommes présents dans plus de 550 listes à travers le pays, ce qui fait de la France Insoumise une force politique plus présente que La République En Marche dans ce scrutin, et plus présente que le Rassemblement National, par exemple.
Pourquoi ne pas faire des listes La France Insoumise ? C'est-à-dire que les prochaines élections, c'est terminé, il n'y aura plus de liste La France Insoumise, il n'y aura plus de candidat à La France Insoumise,
vous
soutiendrez d'autres candidats ?
Pas du tout. Je vous ai expliqué que l'objectif était d'encourager des processus de fédération populaire, qui ont notamment pour objectif de faire en sorte que des citoyens qui n'avaient même pas envisagé soient sur des listes et soient élus au conseil municipal. Les configurations sont tout à fait diverses, de fait, parce qu'on a établi quelques lignes rouges permettent de faire des choses différemment, mais je vous l'ai dit, nous sommes plus présents dans le pays que La République En Marche ou que le Rassemblement National, avec des marqueurs forts. Voter pour les listes soutenues par la France Insoumise le 15 mars, ce sera non seulement l'occasion d'un message politique, c'est-à-dire la motion de censure citoyenne, parce qu'au passage, disons-le quand même, le Rassemblement National, vous savez, ce vote a priori anti-système, comme on l'entend parfois, dans l'affaire des retraites, aura simplement joué son rôle habituel de pétard mouillé. Aux abonnés absents dans les débats, Marine Le Pen n'a pas siégé quasiment de toute la durée des débats à l'Assemblée Nationale. Alors, avec le vote des listes soutenues par la France Insoumise, il y a quelques marqueurs importants. Par exemple, nous sommes les porteurs du référendum d'initiative citoyenne citoyen local, de la charte éthique pour les élus, du droit de révoquer les élus, de l'écologie populaire qu'il faut
imposer. Pour
revenir au municipal, oui, et au Rassemblement National, est-ce que vous ferez partie d'éventuels fronts républicains, par exemple en soutenant au second tour autour des candidats de droite, s'il y a un risque ou une capacité du Rassemblement national à gagner une élection dans une mairie.
Il va sans dire que nous n'aiderons pas le Rassemblement national, ça me semble tomber sous le sens, mais j'attire votre attention sur le fait que dans le contexte que nous vivons, de défiance vis-à-vis de la politique, y compris même les consignes de vote, sont souvent peu respectées. Donc on va pas jouer le second tour avant d'avoir joué le premier.
Pas de ce fait.
Non mais on va pas jouer le second tour avant d'avoir joué le premier. D'abord, il appartiendra aux listes que nous soutenons de décider entre colistiers de ce qu'elles voudront faire. Pour nous, c'est clair, il ne peut pas y avoir de vote pour le Rassemblement national.
Par exemple, à Perpignan, oui, parce que c'est une ville qui va être regardée de près, il y aura Louis Alliot, candidat du Rassemblement national. S'il se retrouve en tête, est-ce que vous appellerez à voter pour le candidat Les Républicains si celui-ci est second?
Mais nous verrons. Je serai en mesure de vous répondre lorsque le score aura été établi.
Mais vous n'avez pas de position
lorsque
de principe face au Rassemblement national.
Non, et d'ailleurs, je crois qu'avoir des positions de principe est tout à fait inefficace.
Moi, face au Rassemblement national, vous avez l'air d'avoir quelques réserves.
Je vais vous dire une chose, Adrien Jardin, une bonne fois pour toutes. Sur le Rassemblement national, dans notre pays, ça fait maintenant plusieurs années qu'il monte. Et la seule méthode qu'on aura à lui opposer, c'est le Front républicain en dernière instance ou le fait de crier au fascisme. Moi, je vais vous dire une chose, je pense que la méthode que j'emploie face au Rassemblement national, elle est plus efficace. C'est-à-dire assumer le combat de fond et des idées face à Marine Le Pen, qui dans un contexte comme celui des retraites a été tout juste bonne à faire des incantations sur les plateaux de télévision, mais n'a rien de conséquent à proposer. C'est pas Marine Le Pen qui vous proposera un contre-projet solide comme celui-là.
Donc je m'adresse, y compris, ne sera plus,
donc
ne
je
sera
m'adresse,
pas
mais laissez, mettez de côté votre Front
vous.
Républicain pour l'instant et entendez ce que je vous dis. Écoutez-moi, je m'adresse y compris à celles et ceux qui dans notre pays pense que voter pour le Rassemblement national serait en quelque sorte en capacité de résoudre leurs problèmes. Ça fait plus d'un an et demi que se mobilisent dans le pays des gens en colère, qui demandent un meilleur partage des richesses, qui demandent une augmentation des salaires. Madame Le Pen continue sur les plateaux de télé à dire son opposition à la hausse du SMIC. Donc je vous dis une chose, quand vous pensez qu'en votant pour le Rassemblement national, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, en fait souvent le coup de pied, vous le mettez à vous-même.
Adrien,
donc je crois effectivement que c'est plus efficace que des incantations et des verbiages sur un quelconque Front républicain. Laissez passer le premier tour, retrouvons-nous au second, vous verrez que notre méthode est plus efficace pour les faire reculer.
On va parler encore un tout petit peu du
premier tour, car il faut les faire reculer.
Si vous le voulez bien, pour pas parler que du Rassemblement national, mais parler du gouvernement. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit uniquement à votre sanction, mais ça peut l'être. Au Havre, le Premier ministre a choisi de prendre la tête de liste. Si jamais il venait à perdre l'élection municipale, prenons un temps d'avance et parlons des principes, est-ce que pour vous, par principe, il doit quitter Matignon? Est-ce qu'il aura été désavoué par les Français et donc devra quitter le pouvoir?
C'est clair. D'abord, je veux quand même signifier le caractère d'indignité, parce que sur l'affaire des retraites et du 49-3, c'est tout de même une défaite morale particulière pour Édouard Philippe et ce gouvernement. D'abord, on a un Premier ministre qui, au moment de la crise du coronavirus et des retraites, s'en va faire candidat au Havre, pour a priori, si on a bien compris, ne pas être maire en définitive, et en quelque sorte utilise le 49-3. Sa majorité refuse ensuite une commission d'enquête proposée par le Parti Socialiste pour l'étude d'impact, puis ils finissent seuls dans l'Assemblée à voter à 98 contre 1 le texte. C'est une défaite et une déroute morale absolument importante. Donc oui, le Havre effectivement nous intéresse particulièrement, nous y soutenons le candidat communiste Jean-Paul Lecoq, nous sommes d'ailleurs engagés avec les communistes dans quelques 200 communes à travers le pays, et effectivement, il y a là-bas la capacité d'adresser un message clair. Si Édouard Philippe est battu au Havre, effectivement, c'est le gouvernement qui peut tomber. Et dans ce cas-là, on aura été au bout de la logique de motion de censure citoyenne.
Guillaume,
je l'appelle de mes voeux, bien sûr.
Votre parti a qualifié le régime d'Emmanuel Macron d'autoritaire. C'est un mot très fort. Nous sommes une démocratie. Le 49-3 est prévu par la Constitution. En quoi est-ce que ce régime est autoritaire?
Alors d'abord, on vient de parler à l'instant des violences policières. Moi, j'ai dit qu'il fallait d'urgence pacifier les relations entre la population et sa police républicaine.
Abus.
Oui, mais il y a un usage particulier, effectivement, pour dissuader des manifestations. De la même manière, sur les mobilisations syndicales, il y a une véritable chasse aux sorcières qui se fait avec des intimidations très claires. Je peux encore en être témoin, pas plus tard qu'hier, dans le Nord, à Cargill, où les syndicalistes m'ont fait état, effectivement, de la répression syndicale qui s'y opère. Et puis, il y a aussi...
Une répression publique contre
les
syndicats.
Incontestablement, ce gouvernement, effectivement, a un pli autoritaire, voire même, nous l'avons dit, des pulsions totalitaires.
Quel pays, Adrien Quatennens? Est-ce que vous nous compareriez à la Chine?
Non, je ne compare pas, je nous analyse, je préfère le faire. Et en réalité, ce que je vous dis, c'est qu'on voit bien dans la méthode de ce gouvernement, mais finalement, ce qu'on peut constater d'ailleurs un peu partout dans le monde, c'est que le libéralisme économique exacerbé, en quelque sorte, est le principal ennemi aujourd'hui des libertés publiques. Nous le voyons bien. Et ce gouvernement, en utilisant le 49-3 de manière détournée et abusive, sur un texte qui, en plus, ne correspond même pas au programme présidentiel. Mmh. Parce que c'est peut-être là le plus grave. Parlons de démocratie un instant. Emmanuel Macron a été élu, ça ne m'aura pas échappé. Et je vous ferai même l'économie d'un débat sur le cadre particulier de son élection. Mais il a été élu sur un programme que cette majorité en cours d'érosion revendique. Et dans le programme, on nous annonçait un projet de réforme des retraites universelle. Il n'en est rien. On nous annonçait 1 euro cotisé offrira les mêmes droits. Il n'en est rien. On nous annonçait que les agriculteurs... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. On nous annonçait que les agriculteurs auraient 1000 euros de pension minimum. 40% n'en verront pas la couleur. On nous annonçait que la valeur du point serait garantie, elle sera indexée sur un indice qui n'existe pas. Et on ne nous parlait pas de carrière complète, mais on sait désormais, grâce au débat qu'ont permis les insoumis à l'Assemblée nationale, que la carrière complète faisait référence à un volume horaire travaillé, qui laisse d'ailleurs penser que la suite, ce sera l'intensification de la durée de travail. Donc je vais même vous dire, ils sont illégitimes. Ils n'ont pas de mandat.
Ils sont illégitimes.
Sur la réforme des retraites, oui. Ils ont été élus. Attendez, je vais me calmer un instant pour pas que vous me fassiez dire autre chose. Et je vais vous répéter tranquillement. Ils sont légitimes au sens où ils ont été élus dans cette assemblée. Mais sur leur réforme des retraites, oui, ils n'ont aucun mandat. Et oui, ils sont illégitimes.
Ils ont une majorité à l'assemblée.
Mais ça m'a pas échappé, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que la réforme des retraites est illégitime. C'est clair, la réforme des retraites. Parce que dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. Ce projet de loi ne fait que ça. Que ça. » Donc cette réforme des retraites est toujours refusée et la bataille n'est pas terminée. Non seulement parce que la navette parlementaire va se poursuivre, mais aussi parce qu'effectivement, dans une semaine, il y a des élections municipales. Alors, et que ce peut être l'occasion de censurer ce gouvernement.
C'est de Question Express.
Le Grand Jury, Question Express.
Adrien Quatennens, pour ou contre le César remis à Roman Polanski la semaine dernière?
Contre, absolument contre. Il ne s'agit pas de...
Pour ou contre?
Il ne s'agit pas de juger la qualité du film, mais clairement, dans ce contexte particulier, il est absolument détestable d'avoir fait le choix de récompenser Roman Polanski.
Pour ou contre, Adrien Quatennens, le paquet de cigarettes à 10 euros?
Écoutez, je n'arrive pas à dire si c'est très efficace en réalité, mais si ça l'est, pourquoi pas?
Vous interrogez sur l'efficacité du paquet de cigarettes à 10 euros?
Si ça l'est, en tout cas, je suis favorable.
Pour ou contre, Adrien Quatennens, une candidature unique de la gauche en 2022?
Très franchement, il paraît assez peu probable tout de même qu'un candidat, par exemple, du Parti Socialiste comme Bernard Cazeneuve ait envie de soutenir un insoumis. Et pour vous dire franchement, je crois que l'inverse est assez peu probable aussi. Donc je ne suis pas certain qu'il faille courir après des scénarios aussi peu probables.
Alors, pour ou contre une primaire de la gauche?
Contre.
D'accord. Et pour ou contre une candidature d'Adrien Quatennens au régional dans les Hauts-de-France en 2021?
Je me prononcerai le moment venu. Je garde le suspense parce que dans les municipales, j'avais à peine mis un bout d'orteil à l'Assemblée que j'étais déjà candidat aux municipales. Donc là, très franchement, y compris pour de potentiels adversaires de la France insoumise dans les Hauts-de-France, je me garderai bien de dire ce que
nous décidons au moment venu. Mais vous ne dites pas non. Vous ne dites pas non.
Ben non, je vous dis pas non.
Bah très bien.
Et puis je ne dis pas oui non plus d'ailleurs.
C'est l'heure de Question Net.
Le Grand Jury, Question Net.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Alors en fin de semaine, François Hollande était devant les étudiants de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et l'ancien président n'a pas épargné Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme talentueux, mais ce n'est pas parce qu'on a du talent qu'on a des idées. Voilà ce qu'a dit François Hollande. D'après vous, est-ce que talent et idées, ça va forcément de pair?
Plutôt, en tout cas, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît assez évident.
Et en ce qui concerne
François Hollande, je crois que ça l'est moins.
Le message est passé. On avait aussi une autre question. Il y a une phrase de Ségolène Royal qui a fait mouche cette semaine. Elle a déclaré « Si j'avais été aux responsabilités, les gilets jaunes, ça ne durait pas 48 heures ». Est-ce que, d'après vous, elle peut fédérer la gauche en 2022?
Je ne le crois pas. Je ne sais même plus d'ailleurs ce qu'elle veut faire, parce qu'en fait, un coup elle est candidate, un coup elle ne l'est pas. Bon, ce que je vois en fait, en réalité, c'est que si on regarde un peu comment les choses se présentent dès 2020 d'ailleurs pour 2022, j'ai donc noté Monsieur Bernard Cazeneuve, Madame Ségolène Royal, Monsieur Yannick Jadot, peut-être Monsieur Fabien Roussel. Bon, ça commence à faire beaucoup. Non, en réalité,
Jean-Luc Mélenchon toujours.
Bah écoutez, moi. Pas par principe. Moi, je considère, si je vois effectivement cette pagaille grandissante dans le pays, dont je suis à peu près certain qu'elle va ne faire qu'augmenter d'ici à 2022, je vois bien quel va être le profil qu'il va falloir pouvoir incarner en 2022. On nous dit qu'effectivement, l'élection, et je le crois, va se jouer beaucoup sur le régalien, sur l'écologie. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, dans l'incarnation dont il est capable, d'une république jusqu'au bout, effectivement, serait tout à fait un bon candidat et que son expérience, effectivement, va plutôt en sa faveur dans la période.
Il a déjà échoué à deux présidentielles en 2012 et 2017.
Mais écoutez, si vous appelez échouer à la présidentielle, faire un score de près de 20%, très franchement, je vous demande de bien reconsidérer la chose. La candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2012, c'était 11-12%. C'était près de 20% en 2017. Pourquoi pas au-delà la prochaine fois ? S'il en décide ainsi, bien sûr.
Dernière question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors cette semaine, l'écrivaine Virginie Despentes a publié une tribune dans Libération pour soutenir l'actrice Adèle Haenel. Elle a terminé sa tribune en écrivant « On se lève et on se barre ». Et c'est le slogan qui a été repris par Clémentine Autain sur un tout autre sujet. Clémentine Autain qui est députée de la France Insoumise comme vous. Mais sur le sujet, cette fois-ci, des retraites. Et cette référence n'a pas été vraiment du goût de tous les internautes qui trouvent ça étrange et pas très judicieux d'associer une tribune contre les violences faites aux femmes pour dire non à la réforme des retraites. Est-ce que vous regrettez un peu cette assimilation?
Mais le combat du moment et le combat du jour, c'est effectivement celui contre les violences faites aux femmes. Et ce texte, d'ailleurs, parlait uniquement de cela. Mais vous n'aurez pas échappé aussi que le texte de Virginie Despentes parlait également, notamment, effectivement, des violences, pour le coup, antidémocratiques. Elle faisait, je crois, référence en son texte, notamment à la réforme des retraites. Donc c'est elle qui a dû en faire le parallèle. Mais effectivement, ça dit quelque chose du moment où, en quelque sorte, tout s'érode et donc les gens ne croient plus, effectivement, parfois à des cadres institutionnels, à des cadres démocratiques et les mettent en cause. Et une manière de protester, c'est effectivement ce « on se lève et on se casse ». Mais moi, l'image qui me vient en tête, par exemple, c'est celle de ces avocats mobilisés. Franchement, les avocats, c'est pas une profession qu'on a l'habitude de voir dans la mobilisation et qui jettent leur robe, qui est quand même une deuxième peau pour eux, hein. Ils y sont très attachés, devant leur ministre de tutelle. Et bien, je crois que ça dit quelque chose de l'ambiance et de déconfiture qu'il y a dans ce pays et il faut effectivement y remettre de l'ordre rapidement.
On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de ce grand jury avec un débat Adrien Quatennens face à Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à l'écologie. À tout de suite.
Jury RTL Le Figaro LCI. Adrien Quatennens face à la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour Emmanuelle Wargon, merci de nous avoir rejoints.
Bonjour Benjamin Sportouche, bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Madame la Ministre.
Pour ce débat. Alors, première question, Emmanuelle Wargon, vous avez entendu Adrien Quatennens dans la première partie de l'émission appeler un vote sanction à l'occasion des municipales. Le président de la République lui avait dit qu'il ne tirait aucune conclusion nationale de ce scrutin. Peut-il le faire, vraiment ?
J'ai entendu Adrien Quatennens expliquer son investissement et l'investissement de la France Insoumise dans les municipales. Mais je me souviens aussi l'avoir lu quand il disait « Si vous voulez changer la vie des gens, finalement, le cadre municipal est trop restreint, ça n'est pas une bonne élection. » Et donc voilà, nous, on est pleinement investis dans les municipales avec des candidats, 600 candidats, 600 listes investies. Bien sûr, les municipales, c'est d'abord le cadre de vie local. Et je crois que c'est ça qu'attendent les Français. Les Français attendent une réponse, un changement.
Mais vous comprenez qu'ils puissent s'exprimer sur la politique nationale également à l'occasion de ce scrutin ?
Bien sûr, les débats politiques sont en cours sur le local et sur les sujets nationaux. Moi, je fais beaucoup de soutien dans le Val-de-Marne, mon département. J'entends quand même beaucoup sur les marchés, j'y étais encore ce matin, plutôt des questions très locales. Que faites-vous pour le centre-ville ? Que faites-vous pour l'écologie dans la ville ? Que faites-vous pour répondre à nos problèmes ? Et donc, ce sera difficile d'avoir une lecture unifiée. Bien sûr, la question se posera, mais je crois d'abord que la demande, c'est la réponse aux grandes préoccupations, propreté, sécurité, écologie locale.
Adrien Quatennens, vous entendez la secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, dire que vous n'avez pas choisi cet échelon municipal comme expression de vos idées.
Repréciser les choses, effectivement, il apparaît clairement de notre point de vue que l'élection qui permet de résoudre un maximum des problèmes, d'ailleurs l'élection qui fait que beaucoup de problèmes qui sont à l'échelle locale viennent s'y connecter, le moment de résolution des grandes controverses dans le pays, effectivement il va sans dire que c'est l'élection présidentielle, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Pour autant, vous nous aurez mal lu si vous avez considéré qu'on voulait mettre de côté l'élection municipale. Nous avons effectivement voulu employer une méthode, parce que vous en conviendrez avec moi, à l'heure de ces élections municipales, on voit dans tout le pays une culture intensive et industrielle de listes citoyennes qui en réalité sont souvent des cache-sexes de partis politiques. Et nous avons voulu une méthode qui permet véritablement de favoriser l'implication citoyenne. D'ailleurs, je dois dire une chose, oui, effectivement, sans résumer, je l'ai dit, cette élection à un vote sanction, je crois qu'il est incontestablement, dans le contexte de réforme des retraites et de cet usage détourné et abusif du 49-3 auquel vous avez procédé, une occasion de vous sanctionner. Et je le dis clairement, et ce n'est pas parce que vous êtes arrivé sur ce plateau que je vais varier sur ma position. Oui, c'est une occasion pour les citoyens, bien évidemment, de porter des solutions à l'échelle de leur commune. Et il s'agit aussi de soustraire à votre courant politique un maximum de communes, faire en sorte effectivement que La République En Marche n'avance pas davantage et que pour vous, ce soit, oui,
Emmanuel
sans doute,
Vargon,
la raclée en mars. Mais je voulais juste dire une chose.
Oui, en première partie, vous avez parlé, non, mais on va laisser répondre Emmanuel Vargon, parce qu'en première partie, vous avez parlé de gouvernement illégitime pour réformer les retraites.
Sur les retraites.
Sur les retraites, je précise, sur les retraites.
Peut-être pour finir sur les municipales avant de revenir sur le sujet des retraites.
Ah non, mais ça fait partie, puisque vous dites que ça doit être dans le débat.
Sur les municipales, d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur l'écologie, sur la possibilité de changer les choses entre le niveau local et le niveau national. Sur les politiques écologiques, ça passe beaucoup par le niveau local, communal, mais aussi les intercommunalités. C'est là que peut vraiment entrer en action des orientations décidées au plan national, l'arrivée d'énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, réseaux de chaleur, etc., la végétalisation, de nouveaux espaces dans lesquels on respire mieux, etc., etc. Donc pour moi, l'échelon local, il est très important. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une élection et tout ce qui ne se fait pas dans cette élection présidentielle n'a pas de sens. L'échelon local, pour changer la vie des gens en mieux, il est très important. Et moi, ce que je constate dans le département que je connais, le Val-de-Marne, je vais prendre trois exemples, à Vitry, à Chevilly-la-Rue, à Champigny-sur-Marne, la France insoumise soutient les majorités actuelles, qui sont des majorités communistes, qui n'ont rien fait sur l'écologie, qui ont laissé les cadres de vie se dégrader et qui continueront à le faire après cette élection si ces majorités actuelles
Alors, Adrien
et
nous vous répond, puisque
le
vous
projet
sur
de
le,
changement
sur les municipales.
À la fois écologique et plus largement réinvestir, redonner un espoir et une vitalité à ces villes.
Bon, une fois, je l'espère pour toutes, vous redire que nous ne balayons pas d'un revers de la main l'échelon local. Nous pensons qu'il a tout à fait son importance, ce qui ne m'empêche pas de dire pour autant que la grande controverse est plutôt bien l'élection présidentielle. Et sur l'écologie, effectivement, il y a beaucoup à faire à l'échelon local, raison pour laquelle, d'ailleurs, les listes soutenues par la France insoumise sont des listes qui ont au cœur de leur programme l'impulsion de cette écologie populaire. Puisque j'ai en face de moi la ministre secrétaire d'État au ministère de l'écologie et de la transition écologique et solidaire, tout de même, on peut regarder le lien qu'il y a, vous le dites, entre la politique menée à l'échelle nationale sur l'écologie et son déploiement à l'échelle locale. Bon, d'abord, dire une chose pour nous situer avant de rentrer dans la polémique, c'est que depuis le 5 mars, c'est-à-dire depuis 3 jours, la France est à découvert climatique. Elle a, en l'espace de 2 mois et 1 jour, rejeté plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'elle ne le devrait si elle voulait respecter la trajectoire qu'elle s'est d'ailleurs fixée de la neutralité carbone à 2050. Dire franchement que votre écologie, Madame Vargon, celle d'Emmanuel Macron, est une écologie de la communication. On a vu Emmanuel Macron faire sa diversion pendant le débat des retraites avec sa balade au Mont-Blanc et des images qui donnaient à penser finalement à Ushuaïa Nature d'un président les mains dans les poches en train de se balader à la montagne, pendant qu'à la même heure, vos parlementaires européens à Bruxelles étaient en train de voter les traités de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam qui sont climaticides. De la même manière, c'est le président de la République qui a renégocié le fait que la France, d'ici à 2023, puisse augmenter de 6% ses émissions de gaz à effet de serre. Alors voyez-vous, moi, l'écologie, je la prends effectivement dans sa globalité, en incluant l'échelon local comme un échelon pour agir, mais je veux partager avec vous, Madame la Ministre, mon diagnostic sur la situation. Les scientifiques nous disent le problème est systémique et vous avez 12 années pour le régler et faire une bifurcation qui, vous en conviendrez avec moi, est radicale. Par conséquent, je ne crois pas, non, que l'on peut attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Je crois à de grandes règles qui nécessitent d'abord qu'un gouvernement agisse. Et nous en appelons pour notre part à la règle verte, à la planification écologique, toutes sortes de choses dont vous faites le strict inverse. D'ailleurs, votre propre ministère qui est censé régler le problème est un ministère dont les moyens n'ont cessé de baisser en nombre de personnel et en budget.
Vous répond notamment sur cette politique dite de la communication, Emmanuel Vargon.
Donc je suis contente de vous entendre dire qu'en fait l'échelon local est important, mais ça n'est pas ce que je constate dans vos programmes, dans vos prises de position dans mon département.
Bien, relisez-nous.
Dans vos prises de position réelles sur le terrain, moi, vous savez, je
suis devant vous, madame.
Dans le Val-de-Marne, mais on parle du niveau national et on parle aussi de ce que font vos candidats au plan local. Après, au niveau national, vous ne serez pas surpris, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous avons une ambition en 2050, comme les pays les plus avancés sur le sujet. Nous nous sommes battus à Bruxelles pour que cette ambition devienne une ambition européenne. Neutralité carbone en 2050 et des réductions de gaz à effet de serre plus ambitieuses pour 2030.
Et vous faites le contraire.
Et nous déployons, on ne fait pas du tout le contraire. On finance massivement les énergies renouvelables avec le développement de l'éolien, du solaire. On met 7 à 8 milliards par an. Pardon, vous allez peut-être me laisser terminer,
mais
puisque
je vous dis des vérités,
parler.
Je veux bien vous laisser.
Alors,
même
non, mais vous allez laisser parler,
vous allez me laisser terminer.
Donc on finance à hauteur de 7 à 8 milliards par an chaque année le financement des énergies renouvelables. On a posé avec l'Union européenne les normes les plus strictes du monde sur les émissions de CO2 des voitures. Et ça n'est pas un hasard si finalement maintenant tous les constructeurs proposent des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Nous soutenons les transports du quotidien comme jamais ça n'a été fait dans la période précédente. Nous soutenons une transition agricole en se battant pour que la politique agricole commune puisse enfin financer cette transition agricole dans le respect des agriculteurs. Nous avons voté, le Parlement a voté la loi anti-gaspillage avec les premières interdictions sur le plastique. Donc nous agissons sur tous les segments. Et notre prochain sujet, c'est l'urbanisme. Comment est-ce qu'on arrête l'étalement urbain ? Comment est-ce qu'on arrête de consommer des espaces naturels qui sont à la fois négatifs pour les gaz à effet de serre et pour la biodiversité ? Et nous en sommes tous à une surémission de gaz à effet de serre. Tous les pays du monde, la France comme tous les autres pays du monde, la neutralité, notre objectif, c'est 2050. Et pour finir, le budget carbone que nous avons recalé, nous l'avons recalé simplement parce que nous avons constaté que la France était en retard sur la période 2015-2018, à cheval sur deux quinquennats. Et nous gardons l'ambition finale et donc nous avons une trajectoire plus ambitieuse pour revenir au point où nous souhaitons arriver en 2025. Donc il n'y a pas de recul. Et donc je sais que vous
avez
dites...
répondu, Adrien Quatennens, sur ce sujet-là, concrètement. Une question que je voulais vous poser et qu'a soulevé Adrien Quatennens dans cette lutte contre
Adrien,
le coronavirus.
Adrien, je suppose.
Adrien Quatennens, pardon, a soulevé, c'est la nationalisation éventuellement d'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire si les laboratoires ne répondent pas suffisamment de manière rapide et cohérente à ce nouveau virus?
Je pense que Bruno Le Maire pose depuis quelque temps la question des acteurs économiques stratégiques sur le territoire français et européen. Et cette question est très importante. On voit bien qu'on a des secteurs économiques stratégiques dans lesquels on a besoin d'être en capacité de produire et d'innover. Je crois plus à un soutien économique au plan communautaire et au plan français qu'à une nationalisation qui n'a pas fait ses preuves dans les périodes précédentes. Donc pas de nationalisation, mais le fait de dire... On soutient pour avoir un secteur économique fort qui soit capable de répondre aux besoins. Et d'ailleurs, il me semble que Sanofi a annoncé il y a quelques jours ou quelques semaines des réinvestissements dans des sites de production en France et en Europe.
Pas de nationalisation. Alors maintenant, on en vient, puisque c'est l'autre question et c'est ce que soulevait Adrien Quatennens en première partie. Il estimait que vous n'étiez pas légitime pour conduire cette réforme des retraites en particulier. Que lui répondez-vous ?
Mais là, vous faites tous les sujets. Peut-être que je peux intervenir entre deux.
Sur l'industrie pharmaceutique, vous avez vu la réponse.
Oui, non, mais juste pour terminer et clore, si vous le voulez bien, le chapitre écologie. Moi, je pense que personne ne s'y trompera. Enfin, vous avez beau raconter ce que vous voulez sur vos vœux pieux. Mais non,
ce que vous faites, c'est que
le président de la République, vous le savez, a renégocié le fait que la France puisse émettre plus 6% de gaz à effet de serre d'ici 2023. Madame
nous
Vargon,
n'avons rien
Madame
renégocié
Vargon,
du tout.
Vous l'avez
nous
décidé,
avons recalé
vous
les trajectoires
décidé.
En fonction
Madame
de
Vargon,
la réalité
vous savez,
parce que nous acceptons
vous
le
savez,
réel.
Madame Vargon, personne ne s'y trompera et tant pis pour vous, ça ne fait pas vos affaires. Mais la France ne respecte aucun de ses objectifs en matière de limitation des gaz à effet de serre. Et votre politique fait l'inverse. Vous ne pouvez pas prétendre, entendez-moi, vous ne pouvez pas prétendre régler le problème écologique d'une main et être champion de la Terre parce que M. Macron parle sur une scène avec un fond de scène vert, quand dans le même temps, vos parlementaires à Strasbourg et à Bruxelles votent les accords de libre-échange, quand vous soutenez l'hydrocarbure...
Adrien Quatennens, vous n'êtes pas d'accord
sur ce sujet. Vous avez parlé, effectivement, vous avez parlé des municipales en disant...
Attendez,
vous avez parlé longuement et je vous ai écouté patiemment, donc si vous supportez de faire un instant la même chose, vous avez parlé des listes dans lesquelles nous sommes engagés. Il y a effectivement quelques 200 listes parmi les 550, ce qui fait d'ailleurs que nous sommes plus présents que vous sur le territoire national.
Non, c'est pas vrai, on soutient 600. En liste.
Non, bah écoutez, on regardera les chiffres dans le détail. Bref, en tout cas, nous sommes engagés avec nos partenaires communistes dans quelques 200 communes, mais nous le sommes aussi avec Europe Écologie Les Verts dans quelques 170 d'entre elles. Je pense par exemple effectivement aux listes dans lesquelles la France Insoumise est impliquée à Toulouse, à Tours, à Grenoble. Donc on verra bien effectivement où se trouvent effectivement les listes de l'écologie populaire. Pour nous, ce sont les listes soutenues par la France Insoumise. Je mets juste en garde les électeurs et les commentateurs comme vous sur le tripatouillage incroyable, le tripatouillage incroyable auquel procède le ministère de l'Intérieur à l'occasion de ces élections. Très franchement, regardez, ça va durer qu'un instant, mais ça sera très clair. Parce que, effectivement, la raclée est peut-être anticipée pour La République En Marche. Monsieur Castaner, malgré les conseils, le Conseil d'État qui a retoqué son décret sur les nuanciers aux municipales, a inventé une étiquette que vous allez voir apparaître dans une semaine. Le soir, on va commenter les premiers tours, qui s'appelle LUC. Alors, chers amis, LUC, c'est Liste d'Union du Centre. C'est un véritable fourre-tout, puisque le candidat type de La République En Marche dans cette élection, c'est finalement un élu de droite sortant, si on regarde bien. Je crois que le projet En Marche, ils ont définitivement rabattu avec ça. Il n'y a que 10% de vos candidats qui sont issus de la société civile. Mais par ailleurs, les listes que soutiennent la France Insoumise, elles, plutôt que de faire un aspirateur comme LUC, elles sont en quelque sorte divisées
Emmanuel
dans tout
Vargon
le pays.
Va vous répondre,
j'allais répondre là-dessus, parce que moi, au total, les listes que je soutiens, que nous soutenons avec la France Insoumise, elles sont référencées tantôt liste d'Union de la Gauche, tantôt liste divers gauche, tantôt liste La France Insoumise, tantôt liste écologiste. D'ailleurs, j'en termine à Toulouse,
alors,
par exemple.
C'est
une liste de La France
Vargon
Insoumise avec Europe Écologie Les Verts, qui est estampillée divers gauche, alors que la tête de liste est écologiste. À Marseille, 7e secteur, c'est une tête de
alors,
liste France Insoumise, et vous faites l'inverse.
Bref,
c'est vous rendez les conditions illisibles de ces municipales.
Je réponds tout d'abord que nous soutenons 600 listes, dont environ la moitié des candidats sont issus de la société civile.
10% de vos têtes de
liste. La moitié de nos candidats sont
issus
de la société civile.
L'essentiel des candidats
civile.
LR, vous le savez très bien.
Ce matin, j'étais encore à Bry-sur-Marne soutenir un candidat qui vient plutôt de la gauche.
Vous pouvez citer toutes les villes qui vous arrangent. Moi aussi, je peux le faire. On peut faire une page de publicité.
Bon, alors,
débattre,
on va
Emmanuel
laisser répondre Emmanuel Vargon.
Je vais finir de vous répondre. Nous soutenons environ la moitié de nos candidats viennent de la société civile. Ensuite, en ce qui concerne le nuançage sur les listes que vous soutenez, il me semble que ça prouve juste qu'en fonction des configurations, c'est ce que vous venez de dire, vous soutenez soit des élus communistes, sortants ou pas sortants, soit des élus vraiment LFI, soit des élus d'autres tendances, y compris écologistes.
Et des citoyens également, beaucoup.
Et que donc, du coup, le nuançage ne fait que...
Puisque vous faites la publicité, dites-le, des citoyens, beaucoup. 70
têtes de liste non cartées. Le nuançage, pardon, laissez-moi finir, ce serait aimable de votre part. Le nuançage ne fait que refléter la réalité du fait que vous avez des soutiens de types différents en fonction des situations locales.
Je vous arrête, mais alors faites la même chose pour vous, parce que vous, en l'occurrence, je crois qu'il y a vraiment très peu, j'ai les chiffres hein, si vous voulez, au total sur les municipales, il y a très peu de candidats qui sont issus de vos rangs en fait, en réalité. Souvent, dites-le, assumez-le, c'est pas grave, vous avez le droit, mais vous soutenez des candidats LR sortants,
alors,
donc vous, il faudrait pouvoir
on
aussi
en arrive à la, on arrive
diviser,
au terme de ce débat.
Parce que vous appelez la confrontation sur les nuances, mais clairement, vous vous tripatouillez
non,
les résultats.
Vous ne pouvez pas dire, c'est totalement faux. Nos candidats, nous soutenons un peu plus de la moitié de listes qui sont investies avec des candidats La République En Marche. L'autre moitié sont des candidats soutenus. Dans les candidats La République En Marche, beaucoup d'entre eux sont des candidats qui font de la politique au plan local et de la politique tout court pour la première fois, qui sont issus de la société civile et qui ont décidé de s'engager.
Mais une
donc
majorité
le mouvement
des
citoyen,
vous en
le mouvement qui a travaillé
bon,
depuis
de
des mois
bon,
pour
dommage.
Aller à la rencontre des citoyens dans les villes pour leur demander quels sont les sujets sur lesquels ils souhaitent que la municipalité change, c'est La République En Marche. Nous en sommes fiers et nous l'assumons.
Une dernière question, Emmanuel Vargon, puisque ça vous a été dit par Adrien Quatennens. Est-ce que vous utiliserez le 49.3 à nouveau en seconde lecture à l'Assemblée nationale sur les retraites?
Nous avions besoin du 49.3 cette fois-ci pour dépasser cette obstruction parlementaire sur laquelle je n'ai pas eu le temps de revenir et sur cette critique finalement très violente de l'illégitimité du gouvernement.
Vous
je rappelle
le
que le président de la
programme.
République a été élu
oui, sur un programme qui disait
il a été
démocratiquement
élu
sur un programme qui disait qu'on ne toucherait ni au
il
niveau des pensions ni à l'âge des
départs. On ne changera pas l'âge légal, nous l'avons dit plusieurs fois.
Vous changez l'âge effectif, vous le savez très bien. Et les Français le savent, d'ailleurs, ils sont une majorité à être opposés.
La critique en illégitimité, c'est une critique très grave, c'est une critique antidémocratique.
Vous êtes légitime parce que vous avez été élu, mais vous faites autre chose.
Très rapidement, il vous répond. Vous avez
la prise de pouvoir.
Adrien Quatennens a 20 secondes pour vous répondre sur
légitime.
Antidémocratique.
Ce gouvernement et cette majorité sont légitimes du point de vue des élections, mais je le redis, sont illégitimes.
Cette majorité sont légitimes.
Laissez-moi terminer. Sont légitimes du point de vue des élections.
Je suis heureuse de vous l'entendre.
Mais sont illégitimes, comme j'ai dit depuis le début de cette émission, pour une réforme des retraites qui fait le contraire de ce que le programme termine. Donc, le 15 mars, Français, adresser clairement au gouvernement une motion de censure citoyenne en votant pour les listes
le
tenues par la France Insoumise.
Les deux,
merci
vous reviendrez, c'était mon émission aujourd'hui.
Merci à vous.
Sans grand jury, mais
merci à vous.
Émission spéciale municipale sur RTL la semaine prochaine et le 22 mars. On se retrouve le 29 mars. Très belle semaine à tous, à très vite.